Salut Ben, comment ça va? Qu'est-ce que t'écoutes?
Salut Steph. Bon, moi ça va bien. Je viens de découvrir un morceau. Ah mais j'ai jamais entendu une ligne de basse pareille.
Ah ouais. Ouh là 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 là.
Qu'est-ce que t'écoutes en ce moment?
Bah tiens, écoute ça. Il y a une section cuivre.
Ah là, c'est morceau d'anthologie, direct. Je crois qu'on arrive.
Oui, on dirait que c'est ici.
Bonjour messieurs.
Salut Stéphane.
Bonjour Stéphane.
Bonjour Stéphane, bonjour Binge, bienvenue.
Merci.
Merci. Entrez, voilà. Et on va descendre dans ma grotte, ce que j'appelle ma grotte musicale.
Eh ben merci de nous accueillir.
Avec plusieurs trombones qu'on peut voir, il y en a un qui est sur son support là déjà.
Oui, bah j'ai toujours un trombone de sortie, effectivement, pour travailler tout simplement. Et j'ai plusieurs trombones, effectivement. J'en ai trois principalement. J'ai mon petit trombone, ce qu'on appelle simple, pour tous mes répertoires de salsa, de jazz.
Le standard, donc, qui est sur quelle hauteur?
C'est la tessiture d'un sax ténor, on va dire, à peu près. Uh-huh. Après, j'ai un trombone basse dont je me sers pas mal aussi. En big band, j'aime bien faire les quatrièmes trombones. En musique classique aussi, de temps en temps, je fais le trombone basse. Et dans mon trio Afro Jazz à Kagera, où dans le jazz, il n'y a pas beaucoup de solistes en trombone basse. Donc je suis content d'être dans cette brèche, on va dire, voilà, dans cette niche.
Donc tu es un souffleur, Stéphane Montigny, et puis on voit aussi... Alors sur un piano blanc dont George Duke serait jaloux, on voit des coquillages, des conques, c'est bien ça? Parce que tu es aussi souffleur de conques?
Oui, tout à fait. Eh ben, les conques, c'est l'ancêtre de tous les cuivres. C'est un des premiers instruments dans lesquels on fait vibrer nos lèvres, comme ça. Ce qui produit le son. À la différence des bois où c'est une hanche, c'est-à-dire un morceau de roseau souvent fin qui vibre, avec une lèvre, nous c'est les deux lèvres qui vibrent l'une contre l'autre.
C'est ça, parce que pour produire le son, il faut émettre cette vibration.
Il faut faire vibrer ses lèvres, voilà. Et donc les premiers instruments où on a utilisé cette technique, bah, c'est les coquillages dont on coupe l'extrémité, ils sont creux dedans, ça fait une spirale à l'intérieur, et ça fait un son très sympa. Vous voulez que je vous en joue un petit bout là, vite fait?
Oh bon, on
pour avoir le son, oui. Sinon vous écoutez le premier titre de l'album Traverse d'Akagera, et ça commence par du coquillage.
Voilà, bien sûr, on va explorer. Ah oui, pas besoin d'être juste devant le micro, effectivement.
Non, c'est pour ça que je me suis tenu éloigné du micro. Parce que ça porte, en fait, c'est... Donc, on règle la hauteur du son en rentrant la main ou les doigts dans le pavillon du coquillage, on va dire. Mmh. Et ça baisse un petit peu. Alors, on n'a pas beaucoup de tessiture. On a quelques notes, quoi. Peut-être 2, 3, 4, ça dépend des coquillages. Et donc ça porte. À la base, c'était un instrument. Ça avait plusieurs offices. Alors, je ne sais pas si le premier, mais en tout cas un sens religieux. Ce son, je pense que les premiers à avoir soufflé dans ce truc-là, ça les a transcendés. Donc, c'est vite devenu un instrument religieux et aussi surtout de communication. Donc, soit pour les vallées. Mais c'est surtout, comme c'est un instrument qu'on trouve sous les tropiques et évidemment dans la mer...
Oui, il faut préciser que les conques sont assez grandes, hein, parce qu'on a des coquillages qui font jusqu'à 10 cm sur 20 à peu près.
Oui, et puis il y en a des grands qui font 70 cm de long et qui jouent des notes très graves. J'ai pas la chance d'en avoir un énorme comme ça, mais,
ça
existe.
C'est pas sous nos latitudes.
Non, de toute façon, voilà, la plupart c'est sous les tropiques, donc on en trouve en Inde, on en trouve dans les Caraïbes, on en trouve dans toutes les Polynésies, Micronésies, enfin tous les archipels comme ça. Et ça sert à communiquer sur l'eau.
Parce que c'est
un son qui porte, et sur l'eau ça porte encore plus. Donc en Amazonie, beaucoup, évidemment, Polynésie, tout ces, enfin voilà, dès qu'il faut communiquer un peu loin, ça servait à ça aussi. Et même entre villages, le long des fleuves, parce que ça porte sur des kilomètres, donc c'était un moyen de communication. Voilà, donc, et l'autre instrument dans lequel on fait vibrer nos lèvres, qui existait avant les instruments qu'on connaît, c'est la corne.
Bien sûr.
La corne, on coupe le bout de la corne, et d'où le mot horn et le cornet après, c'est voilà, parce que. Et entre-temps, il y a eu le cornet à bouquin avant la trompette, qui est comme une flûte en bois, un peu recourbée, avec des trous et une embouchure. C'est très utilisé dans la musique médiévale et ancienne, jusqu'à la Renaissance, et c'est l'ancêtre de la trompette.
Alors toi, ton instrument permet en plus, il est plus moderne parce qu'il permet une modulation du son grâce à une coulisse, et tu apprends à jouer du trombone avec une formation classique tout d'abord, et c'est à Paris que ça se passe.
Alors, j'ai appris le trombone déjà dans l'école de musique du village d'où je viens, à côté d'Orléans, et avec l'harmonie du village. C'est là où j'ai fait mes premiers pas. Ensuite, très très vite, assez vite, je suis rentré au conservatoire d'Orléans. Et puis quelques années plus tard, je suis allé à Paris, en fait. Je suis monté aussi assez jeune à Paris, étudié. Je suis rentré au conservatoire de Paris, supérieur de Paris à la Villette, dans la classe de jazz. Parce que ça faisait déjà quelques années que j'avais m'étais éloigné de la musique classique, puis que je faisais beaucoup, plein d'autres choses, et bon, j'ai cherché ma voie un petit peu, puis très vite je suis allé dans d'autres directions, et donc je rentre dans la classe, et il y a un professeur qui est tromboniste qui s'appelle Glenn Ferris, qui est un américain qui a joué aux États-Unis, qui avait joué avec Stevie Wonder, enfin qui a une belle carrière, et en France qui a une très belle carrière de soliste de jazz. Et il a fait des, par exemple, il y a l'album BFG avec Simon Goubert et Emmanuel Bex, que moi j'ai écouté, réécouté, qui était vraiment, au moment où je rentrais au conservatoire, qui était un truc qui a frappé fort en France, en tout cas le jazz français. C'était super.
C'était quelle année ça à peu près?
Ça c'est 2000.
D'accord.
Ouais, c'est ça. La première fois que je me retrouve à jouer à côté de lui, c'était avant de rentrer au conservatoire. Il est assis à côté de moi et il joue une note dans son trombone. Et j'entends ce son mais de trombone, mais enfin, c'est indescriptible. Et là, je me dis, bon, eh ben, j'en ai pour 10 ans. J'ai 10 ans de boulot devant moi.
Tu as tout de suite su que ça allait prendre du temps.
Ben, je savais déjà que ça prenait du temps, mais ça, avoir cette qualité de son, cette chaleur, cette rond, enfin, je fais, ah, oui, si je veux atteindre ça, ce niveau de sonorité, j'ai 10 ans de boulot devant moi. Et effectivement, ça m'a pris 10 ans, non pas pour faire la même chose, mais pour m'approcher et puis en tout cas développer mon son à moi.
Alors, de fil en aiguille, si je peux m'exprimer ainsi, tu arrives aussi dans un univers un peu plus médiatisé, avec dans le domaine du pop, du rock, avec M, Raoul Paz, Olivia Ruiz, Benabar et d'autres encore, avec qui tu joues.
Oui, ça fait partie de mon métier, c'est de partir en tournée, d'accompagner des chanteurs, donc, ou juste du studio, ça dépend des fois. En tout cas, voilà, ça m'a permis de croiser effectivement et de collaborer avec un certain nombre de gens connus de la variété française.
Alors Stéphane,
oui,
on arrive à la première question.
Ouh.
De qu'est-ce que t'écoutes ? Qu'est-ce que t'écouteras toujours ? Qu'est-ce que tu pourrais emmener sur une île déserte et l'écouter régulièrement sans jamais t'enlacer, vraiment ?
Alors, si j'étais sur une île déserte, j'imagine que j'aurais besoin d'une musique qui me fasse oublier ma solitude et ne pas tomber dans le désespoir. Alors, je pense que il y a une chanson comme ça que j'ai écoutée pendant longtemps, qui est chantée par Toto La Mompocina. Toto La Mompocina, c'est vraiment la femme colombienne repérée par Radio France, d'ailleurs, dans les années 90, qui a vraiment apporté en Europe la cumbia, toutes les cultures folkloriques et traditionnelles d'une partie de la Colombie, en tout cas. Donc vraiment, d'accord, c'était la pionnière, la première à faire le tour du monde, on va dire. Pas de la salsa, pas de la cumbia pure, mais avec vraiment des éléments de la côte caraïbe, de trucs plus traditionnels comme le fandango, le porro.
C'est la première avec ce folklore-là, voilà, avoir tourné, voilà, vraiment dans
et,
le monde.
Et avoir aussi amené ce folklore-là, on va dire, dans le centre-ville de Bogota, quelque part. Enfin voilà, elle a fait le lien entre, entre le Magdalena et la capitale. Enfin, c'était la, une des pionnières de ce point de vue-là. Et à faire tourner ça en Europe. Donc, et là, il y a une chanson d'elle qui s'appelle Gossa Plinio Sierra de l'album Pacanto. Vraiment, moi, qui me rebooste.
Eh ben, je vous propose d'écouter Toto la Montpessina.
Ah ben, on écoute, ça c'est sûr.
Et le titre
Gossa Plinio Sierra. Kiff Plinio Sierra. Ça veut dire allez, amusez-vous, gens de Plinio Sierra.
Ya bailar, que la parranda está en la calle.
Quiero amanecer.
Goza, goza, Plinio Sierra.
Quiero amanecer.
Que la parranda está en la calle.
Quiero amanecer.
Goza, goza, Plinio Sierra.
Quiero
amanecer. Dès que je l'écoute, c'est vraiment une musique de fête, une musique de parranda, c'est-à-dire de défilé. C'est de la musique de défilé. Vraiment, donc de. Moi qui suis un musicien de rue à la base, je viens de l'harmonie, donc les défilés de la fanfare. Et après, j'ai fait la Manche, j'ai fait 10-15 ans avec la belle image de cette fanfare. Moi, je suis à la base un musicien de rue. Il m'a fallu énormément de temps pour me mettre devant un micro et aimer ça, aimer devant être un micro. Donc voilà, ça me fait vibrer mon sang, ça fait vibrer mes origines, de là d'où je viens, ça et ça m'apporte de la joie, tout simplement.
Buenas Ondas.
Ouais, Buenas Ondas, exactement.
Et toi, tu as des origines aussi latines ?
Pas du tout.
D'accord.
Pas du tout, mais...
De cœur.
Voilà, de cœur, voilà. J'ai...
Alors, son vrai nom, c'est Sonia Basanta Vides. Elle est originaire de...
De Mompox.
De la région du Caraïbe. On est sur le Caraïbe.
Ouais, c'est... Mompox, c'est une ville qui est le long du Magdalena. C'est le grand fleuve qui descend de Barranquilla. Mm. Vers le sud, en suivant la cordillère, enfin, qui descend de la cordillère, donc évidemment. Ça a été le trajet de beaucoup d'esclaves, enfin, c'est un axe de distribution des esclaves sur le continent. Mm-hmm. C'est par là qu'ils descendaient pour aller jusque dans les mines en Bolivie. C'est pour ça qu'il y a encore des poches de culture afro-bolivienne en Bolivie, au Pérou aussi. Et c'est des poches, c'est là où il y a des mines en fait. Si tu lis Gabriel Garcia Marquez, t'as toujours l'arabe avec son turban, le musulman en fait, le turc. Tu vois, alors évidemment partout, des musulmans c'est un turc, mais c'est bon, ce serait plutôt des Libanais. Grosse vague, donc voilà, c'est une région métissée encore plus. Parce que ce qu'on oublie dans les manuels d'histoire et dans la façon dont on se représente les cultures d'Amérique du Sud, c'est qu'on... On parle toujours du triptyque européen, africain et indigène. Mmh. Voilà. Mmh. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'en 1492, en Espagne, c'est quoi la culture ? C'est arabo-andalou ?
Ah, complètement, c'est sûr.
Donc le H, la prononciation du H, Heineken, ça vient de l'arabe.
C'est plutôt très séquisse, non ?
Ouais, mais non, voilà, ouais, c'est ça. Mais enfin, tu voilà, mais il y a plein de choses comme ça qui viennent de la culture arabe, arabo-andalouse, évidemment. Donc, par exemple, le fait coro pregon, c'est-à-dire un soliste et un chœur qui répond. Ça vient directement, ça vient d'Afrique, mais passé par la culture arabe et par l'Espagne. C'est-à-dire qu'il y a eu deux chemins. De l'Afrique noire, on va dire, celle qui est passée, qui est remontée par la Mauritanie, tout le Maghreb et l'Espagne, par la culture, l'Empire arabe, qui est allé jusqu'en Espagne.
Pendant 800 ans.
Pendant, voilà. Et le côté par les esclaves un peu plus tard. Mais il y a de toute façon, c'est passé aussi par le monde arabe, et ça, c'est occulté dans les livres d'histoire, d'histoire de la musique surtout. Mmh. J'essaye de rétablir, en tout cas, quand j'en parle, le fait que c'est pas trois mais quatre cultures qui se mélangent.
Et alors, l'autre qu'est-ce que t'écoutes, celui qui t'a ému, récemment que tu écoutes là et tu es dessus.
Concrètement, dans ma vie, c'est que j'ai des enfants et j'ai ma grande qui a 13 ans et demi, qui a un téléphone portable et qui est au collège. Donc, ce qui me nourrit, c'est ce que me ramène ma gamine. Et je trouve ça super parce que déjà, je me fais un update. Mmh. Et j'ai la chance qu'elle écoute énormément de hip-hop, trap, US, mais aussi plein de choses intéressantes. Donc c'est elle qui me fait découvrir tous les gros tubes américains du moment. Et c'est vrai que dans les gros machins très populaires, il y a un artiste que j'aime bien, c'est Bruno Mars, et surtout ce qu'il a fait avec Anderson .Paak, c'est Silk Sonic. J'ai vraiment aimé ce projet. Ouais. Alors ouais, c'est mainstream, il n'y a pas de souci, mais ça groove, c'est vachement bien foutu.
Ouais, ils sont bons, c'est de la.
C'est vraiment de la pop de qualité, quoi. Et ça me fait kiffer. Et ça me fait kiffer, tu vois. Et par exemple, sur l'album de Silk Sonic, il y a un titre. Comment c'est le bassiste, là ? Enfin, ça groove, c'est funky, c'est monstrueux. Puis Anderson .Paak, c'est un super batteur. Moi, je suis fils et frère de batteur. Je suis très sensible. Si, moi, je voulais être batteur. Et on m'a dit, tu joueras du trombone dans l'école de musique. Moi, je voulais être percussionniste, batteur. Et donc. Tu vois, moi, c'est ça, c'est pour moi le groove, c'est ça, c'est que avant d'être tromboniste, je suis.
Rythmicien.
Voilà, je suis un rythmicien, exactement.
Un rythmicien.
Je suis un rythmicien, et donc quand la pop elle groove, eh ben, j'adore ça. Donc j'aime bien la pop des États-Unis, j'aime bien le hip-hop, j'aime bien le flow des rappeurs. Enfin, rythmiquement, ça me nourrit aussi, c'est extrêmement satisfaisant. Et voilà quoi, et puis c'est marrant, ma gamine elle s'intéresse à des trucs un peu plus anciens, Eminem, des choses comme ça, un peu virtuose, donc voilà, je suis là-dedans en ce moment.
Il y a du flow.
Voilà, et du coup, toi par exemple, Silk Sonic, c'est aussi des morceaux, c'est accessible, donc par exemple, Leave the Door Open, le gros tube là, je l'ai relevé, puis je le fais jouer à mes élèves, enfin tu vois, c'est des trucs que je fais bosser...
Bien sûr, c'est un moyen de communiquer par
l'intérêt.
C'est un
moyen de transmettre, quoi, tu vois. Mmh. Et ça groove, donc je me lasse pas de la chanson parce qu'il y a quelque chose qui me tient par le groove, par le rythme.
En tout cas, si on en croit ce que nous dit une plateforme bien connue de streaming en ligne, tu viens d'obtenir le record absolu de Qu'est-ce t'écoute pour le nombre de streams de la musique du morceau que tu partages avec nous, Leave the Door Open. Par Silk Sonic, c'est-à-dire Bruno Mars, ouais. Et
Anderson .Paak, c'est un milliard, non ?
C'est un milliard et demi, oui.
Voilà. Bon, et écoute, okay. Pour moi, c'est les Stevie Wonder de maintenant, ces mecs-là, c'est le même genre, c'est-à-dire c'est mettre du groove et de la qualité dans la pop, et ça, c'est précieux.
Ah bah, on écoute.
On écoute tout de suite. Silk Sonic.
I look too good to be alone. Ooh. My house clean, my pool warm, just shake, smooth like a newborn. We should be dancing, romancing in the east wing and the west wing of this mansion. What's happening? I am playing no games. Every word that I say is coming straight from the heart. So
moi, j'entends Stevie Wonder quand j'écoute ce morceau directement, et c'est vrai qu'on l'entend. On l'entend souvent, Stevie Wonder, quand même, dans plein de choses d'aujourd'hui. Hein.
Oui, enfin, oui.
C'est une influence terrible.
Mais voilà, alors oui, c'est de la soupe, mais c'est de la soupe de qualité. Pour moi, il y a du groove, voilà. Donc, c'est important aussi. Je suis fils de Baluchard. Mon père, il faisait du bal. En fait, je viens à la base de la musique populaire. Moi, j'ai découvert la musique classique à 14 ans en rentrant au conservatoire. J'ai découvert le jazz plus tard, à 17-18 ans. J'ai découvert les musiques latines à 19 ans, mais le creuset d'où je viens, c'est les musiques populaires. C'est le bal populaire, donc c'est les variétés. Mmh.
La musique, c'est ça son fondement, c'est quand on se réunit, on célèbre, on partage. Mmh. C'est comme ça que c'est né, en Afrique au début.
Voilà,
de
c'est
tout.
Ça, c'est ça, c'est ça.
On célèbre les moments importants de la vie et on voilà, se réunit et on danse, on chante, on
voilà,
danse.
Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc moi, j'ai rien contre le fait qu'une musique ait du succès, à condition. Bon, évidemment, pour avoir plus de chances de toucher le plus de monde possible, être le plus universel possible, il faut aller vers la simplicité, voire le simplisme. Mmh. Mais alors, deux choses. Déjà, composer des choses simples, c'est ce qui est le plus difficile, premièrement. Donc, respect éternel pour ceux qui savent faire ça. Et ça n'empêche pas que, parfois, tu as des chansons qui deviennent un peu universelles et qui ont quand même... Pour une oreille de musicien, de quoi être satisfait, quoi. C'est-à-dire une certaine complexité harmonique, une finesse rythmique, des subtilités, quelque chose de d'extrêmement bien fait. Voilà, donc j'évite tout snobisme, en tout cas.
Et c'est une musique qui va pouvoir t'inspirer, t'influencer dans ce que tu fais aujourd'hui, dans tes projets actuels ?
Alors, je dirais pas directement dans les projets que je fais, mais quand j'improvise, j'ai ce côté, je crois, où j'aime, je vais pas chercher la complexité à tout prix, plus à un discours de chanteur. Je me sens plus comme un chanteur quand j'improvise au trombone, enfin quand je joue du trombone en tout cas. Et je sais que par exemple, je suis pas un pur jazzman, mais je sais improviser de manière simple. Comment dire ? Où la virtuosité n'est pas le but premier. Mon but premier, c'est de m'adresser aux gens, comme si je leur chantais quelque chose. Donc je crois que ça me développe un certain langage trombonistique. C'est ce qu'on dit de moi, en tout cas. C'est ce que je recherche.
Alors, nous, on aimerait bien que tu partages avec nous quelque chose que tu joues actuellement ou que tu as simplement envie de nous faire écouter.
Alors déjà, une petite rythmique très Nouvelle-Orléans qu'on joue avec Akagera. On s'est inspiré quelque part un peu des Meters, tu vois, dans l'esprit, quoi. Mais on le joue pas en 4-4, on le joue en 7. C'est pour ça on est plus la musique de chambre européenne. Ouais, je vous fais écouter ça.
Yes.
Donc là,
yes.
Je suis au trombone basse. C'est vrai que comme dans Kagera, donc depuis quelques années, j'apprends ce métier de jouer les basses, que ça n'a rien à voir avec placement rythmique de ce que j'ai longtemps fait, jouer les contretemps. Ce trombone, mm-hmm. on s'en tape du contretemps dans plein de styles différents. J'étais à un moment de ma vie très pointu en contretemps, comme un guitariste un peu accompagnateur. Ouais. J'étais vraiment pointu là-dedans. Et c'est pas le même placement que pour les mélodies où on est au-dessus de tout ça. C'est vraiment trois métiers, trois placements rythmiques différents. Et c'est vrai que j'ai commencé par les contretemps, puis les mélodies, et depuis quelques années, à prendre le placement et le mode de jeu pour jouer des basses qui groove, qui soient et être ensemble avec. Enfin voilà, c'est au trombone, c'est pas si simple. Mais j'apprends. Je continue d'apprendre. Hein.
Oui, bien sûr.
Il y a que ça.
C'est moi qui pose la dernière question.
Je t'écoute, Benjamin.
Cher Stéphane, tu dois avoir une idole, un musicien dont tu es le fan absolu. Si tu avais l'occasion de le rencontrer, alors déjà qui ce serait, et puis qu'est-ce que tu lui dirais, qu'est-ce que tu lui demanderais? Alors là, j'ai employé idole pas au sens fanatique,
oui,
mais
oui,
vraiment
mais
l'artiste
bien sûr, bien sûr.
Qui...
Inspirant pour toi.
Un artiste qui a compté dans ma vie de musicien, je dirais en termes d'inspiration, c'est Willie Colon, le tromboniste. Il a créé quelque chose à New York, quoi, créé un mouvement musical entier. enfin pas tout seul évidemment, mais il a fait partie de la Fania All Star, ce légendaire label qui a sorti Celia Cruz, qui a inventé la salsa new-yorkaise, qui est devenu un style...
New Yorkan Soul.
Voilà, voilà. Okay, voilà.
Willy Colon, parce qu'il a porté un son particulier
Parce que déjà, c'est un tromboniste.
Ouais, déjà.
C'est un tromboniste, donc il a inventé un style qui n'est pas. Virtuellement, c'est ça, c'est le son. C'est les sons de la rue new-yorkaise, quoi. Déjà, c'est pas.
Ça joue avec les tripes, quoi.
On n'est pas au Kennedy Center, quoi. C'est le Bronx latino, voilà. Ça sent la sueur et puis c'est cool, quoi. Il y a un message derrière, quoi. C'est une nouvelle urbanité pour tous ces latinos qui se retrouvent. Qui se retrouvent dans les grandes villes américaines. C'est dur pour eux, c'est pas simple, quoi.
Et ils se retrouvent effectivement fédérés par un label comme Fania qui a sorti des tonnes
C'est lui, il était producteur. C'est-à-dire Ouais, c'est lui le patron, en fait. C'est lui le moteur, quoi.
Je savais pas.
Et voilà, il est producteur, arrangeur, tromboniste. Et après, il est devenu chanteur avec ce fameux titre Idilio, il s'est fait connaître. Mais voilà, c'est un bosseur de ouf. C'est un gars qui a bossé vraiment, là pour le coup, esprit américain, quoi. Le gars, il bosse.
Tiens, c'est... Tu demanderais quoi, alors?
Tu veux pas m'emmener en tournée? Avec toi?
T'échangerais bien quelques notes de trombone avec lui.
Ouais. Après, quand il vient en France, c'est un très bon pote à moi qui joue avec lui.
Mais alors, tu disais, est-ce que tu pourrais m'emmener avec toi? Mais derrière tout ça, le fond du fond, c'est... Tu voudrais pouvoir l'observer de près? Tu voudrais pouvoir... qui partage avec toi des choses qui t'intriguent.
Là, je suis dans le côté primaire de mon métier, c'est de sonner avec mon voisin, tu vois, dans la section. C'est une alchimie vibratoire, c'est des résonances, voilà, c'est d'être en résonance avec comme vraiment j'ai un instrument qui est idéal pour ça, c'est, je suis obligé de résonner pour faire sonner mon instrument, mais c'est valable pour tous les instruments, évidemment. Mais je suis sensible à ça, donc moi c'est être à côté de lui et raisonner avec lui, et là j'ai pas besoin d'observer, j'ai pas besoin de mes yeux.
Tu vas le ressentir.
Bah c'est ça, voilà quoi.
Si on voulait de l'émotion, là il y en a, il y a du ressenti, il y a de la vibration interne au plus profond de son être, et c'est ça.
C'est ça, c'est ça qui compte, c'est ça qui me plaît dans ce métier, c'est ça qui m'a convaincu, qui m'a entraîné dans ce métier, c'est le plaisir de jouer ensemble.
Merci beaucoup Stéphane Montigny.
Merci Stéphane, merci Benjamin.
Voilà, bonjour. Et ben nous on va souhaiter à tout le monde de belles résonances à venir. Et puis ben on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Qu'est-ce t'écoute. Voilà, Qu'est-ce t'écoute, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous on se retrouve
mardi 3 juin
pour un nouvel épisode. Ciao.
Ciao.